Aujourd'hui, j'ai oublié mes lunettes. Mais normalement, ça devrait aller. Bien, nous voici réunis autour de la parole de notre Seigneur et merci pour votre accueil et votre invitation et que le Seigneur puisse être parmi nous pour nous conduire, nous diriger encore cet après-midi dans notre réflexion. Dans notre réflexion, nous en tant que chrétiens, qui dites-vous que je suis ? Alors nous avons lu ces quelques versets dans Matthieu. Et nous pouvons assister, suite à cette question de Jésus, qui dit-on que je suis ? Alors, nous avons différentes réponses. Jean-Baptiste, Élie, ou Jérémie, ou l'un des prophètes. Mais Jésus leur dit, vous qui me suivez, vous qui me voyez, vous qui m'entendez, qu'est-ce que vous avez perçu de ma nature ? Ça, il y a de l'écho, ça siffle, non, je trouve. Et Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et Jésus ajoute, parce que là on voit quand même que la réponse est différente des premières. Autant les premières réponses sont restées, je dirais humainement parlant, mais là, tu es le Fils de Dieu. Et là Jésus dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas tes sentiments humains que tu as fait parler, mais cela t'a été révélé. Et dans Marc, au chapitre 8, au verset 27-32, donc nous pouvons lire également cette question de Jésus, qui dit-on que je suis ? Et Jésus ajoute, il leur recommande sévèrement de ne dire cela à personne, qu'il est le Fils de Dieu. Et Jésus, là, commence à leur apprendre qu'il fallait qu'il souffrît beaucoup, qu'il fut rejeté même par les anciens des églises, par les principaux sacrificateurs, par ceux qui étaient instruits, et par les scribes, donc par tous les êtres intelligents, enfin dits intelligents, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita 3 jours après. Voilà, en quelques mots, Jésus leur a livré le tracé de sa vie. Mais il ne fallait pas divulguer cela maintenant, le temps n'était pas venu. Alors, quand il y a quelque temps que j'ai lu ces versets, je me suis dit, mais c'est vrai, qui dites-vous que je suis ? Qu'est-ce que je dis de Jésus dans ma vie ? Alors, j'ai énuméré un certain nombre de choses. Par exemple, Jésus est celui qui guérit. Dans Matthieu, au chapitre 8 et au verset 3, nous pouvons lire ceci. Jésus étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Et puis, dans le même ordre d'idées, Jésus est celui qui guérit. Nous venons de le voir, il touche, mais aussi celui qui guérit à distance. Dans Matthieu, au chapitre 8 et au verset 7, Jésus lui dit, « J'irai et je le guérirai. » Vous savez, il s'adresse au centenier. Et au verset 13, « Puis Jésus dit au centenier, « Va, qu'il te soit fait selon ta foi. »
et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Donc, sans que Jésus ne l'ait touché. Alors, un autre attribut, Jésus est celui qui choisit et qui envoie. Hein, dans Matthieu, au chapitre 4 et au verset 19, il dit à ses futurs disciples, « Suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Hein, » De pêcheurs de poissons, ils sont devenus pêcheurs d'hommes. Et quoi encore ? Qu'est-ce qu'on pourrait dire de Jésus ? Ben, par exemple, Jésus est celui qui pardonne les péchés. Dans Matthieu, au chapitre 9, au verset 2, bon, j'ai pris la plupart du temps Matthieu, mais on retrouve aussi ses récits dans les autres évangiles, bien sûr. Hein. Donc, Jésus, celui qui pardonne les péchés. Matthieu, chapitre 9 et au verset 2, « Prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Matthieu, encore, au chapitre 9, un peu plus loin, verset 5-6, « Car lequel est le plus aisé de dire, tes péchés te sont pardonnés, ou de dire, lève-toi et marche. » Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit, et va dans ta maison. » Donc là, il accomplit deux choses en même temps. Il pardonne les péchés et il guérit en même temps. Alors, continuons notre réflexion. Jésus est celui qui lit dans les pensées. Donc, en cet instant même, Jésus lit dans vos pensées. Qu'êtes-vous en train de penser actuellement, à cet instant ? Matthieu, chapitre 9, au verset 4. Et Jésus, connaissant leurs pensées, dit, par exemple, hein, dans cet exemple-là, « Pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs ?» Mais on a vu dernièrement que, vous vous souvenez, quand les disciples se posent la question, mais qui est le plus grand ? Qui va être le plus grand ? Jésus connaissait leurs pensées. Et puis, encore autre chose, Jésus, c'est celui qui connaît le Père. Dans Matthieu, au chapitre 11, à partir du verset 25, « En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. » Et il ajoute, « Toutes choses m'ont été données par mon Père. » Écoutez bien la suite. « Et personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père. » Et personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et celui à qui le Fils veut le révéler. Donc là, on a une relation de réciprocité. Le Fils connaît le Père et le Père connaît le Fils. Et puis, un peu plus loin, toujours dans Matthieu, chapitre 15, à partir du verset 12, nous pouvons lire ceci. « Alors ses disciples s'approchèrent et lui dit, « Sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés des paroles qu'ils ont entendues ?» Il répondit, « Toute plante qui n'a pas été plantée, que n'a pas planté mon Père céleste, sera déracinée. » On s'aperçoit que les pharisiens étaient souvent choqués des paroles de Jésus. Mais là, Jésus ajoute que ce que les pharisiens ont au fond de leur cœur, ce ne sont pas forcément que des paroles bibliques, des paroles saines. Et puis toujours dans Jésus, celui qui connaît le Père, dans Jean au chapitre 14, à partir du verset 8, Philippe lui dit « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Jésus, donc, malgré tout ce que Jésus a déjà montré, dit, Philippe lui dit « Oui, mais d'accord. » Mais quelque part, l'incrédulité de Philippe le rattrape. Et il dit « Bon, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Ça veut dire ben, « Si tu nous montres le Père, c'est bon, on te croit, on aura cru, on aura vu, mais on aimerait quand même bien avoir une preuve, quelque part. » Et d'ailleurs, Jésus lui répond ceci. « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. » Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? On a encore une relation de réciprocité. Les paroles que je vous ai dites, je ne les ai pas dites de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes, parce que moi je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Allez, il est important de souligner cet attribut que Jésus est dans le Père et le Père est dans Jésus. Jésus est aussi celui qui sauve. Dans Jean, au chapitre 20, au verset 31, « Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. » Jésus, celui qui sauve. Mais Jésus aussi, celui, donc encore un autre attribut, celui qui est le chemin, la clé pour la vie éternelle. Là, on continue dans Jean, chapitre 14, versets 6 et 7. Et Jésus dit, « Je suis le chemin, la vérité, la vie. » Et non, je ne suis pas un chemin, une vérité et une vie. On a l'unicité. Et nul ne vient au Père que par moi, dit Jésus. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi le Père. Et dès maintenant, ajoute-t-il, vous le connaissez et vous l'avez vu. Un peu plus tôt, au chapitre 10, toujours dans Jean, à partir du verset 7, Jésus leur dit encore, « en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Mais Jésus ajoutera aussi ceci, c'est qu'il est la porte étroite. Il est, vous savez, dans les grandes villes fortifiées, Jérusalem, du temps de Jérusalem, la grande Jérusalem, hein, avec toutes ses murailles, il y avait de grandes portes pour avoir accès à la cité, de énormes portes, mais il y avait toujours une petite porte. Et là, il fallait passer. Donc la grande porte était fermée pour raison de sécurité. Quand vous arriviez à la fermeture des portes, vous ne pouviez passer que par cette petite porte. Il fallait la plupart du temps, se courber pour rentrer. Jésus dit qu'il est la porte étroite. Et puis, souvenez-vous aussi, malgré tout cela, ce que nous venons déjà d'entendre, hein, Jésus le chemin, Jésus la clé pour la vie éternelle. Souvenons-nous que Jésus a été aussi celui qui a été annoncé. Souvenez-vous des paroles d'Ésaïe 700 ans avant la venue de Jésus. Ésaïe écrit ceci. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Continuons la lecture d'Ésaïe. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche. À un moment donné, petite parenthèse, de son accusation, quand on lui demande de se justifier, il est écrit que Jésus n'a pas dit mot. Et là, Ésaïe cite: il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche. N'est-ce pas une révélation? Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent, il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de son peuple? Beaucoup ont vu et beaucoup pas cru. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'eût point de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasira ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leur iniquité. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec grand. Il portera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort. Et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, il a même été crucifié entre deux malfaiteurs. Parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Donc c'est vrai que nous n'avons peut-être pas l'habitude de lire l'Ancien Testament, mais quand on lit ce récit d'Ésaïe 53, comment dire que Ésaïe a inventé? N'a-t-il été conduit par l'Esprit de Dieu pour écrire tout cela, pour révéler tout cela? Parce que c'est exactement ce qui s'est passé. Jésus a été celui qui a été annoncé. Et puis souvenez-vous, Matthieu, chapitre 1er. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Là aussi, c'est une annonce faite quelque temps avant la venue de Jésus. Mais quelque temps avant. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Avant qu'ils eussent couché ensemble. Hein. Appelons un chat un chat. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, ni la répudier, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. » C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplît ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Et le prophète avait annoncé ceci. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Et donc, s'accomplit, on peut lire dans Matthieu 27, au verset 10, « Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie, le prophète. Ils ont pris les 30 pièces d'argent, la valeur de celui qui a été estimé, qu'on a estimé de la part des enfants d'Israël, l'argent de Judas, pour livrer Jésus. » Et ils les ont donnés pour le champ du potier comme le Seigneur me l'avait demandé, me l'avait ordonné. Et puis cette phrase de Jean 3:16, tout le monde la connaît. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé. Croire ou ne pas croire. Parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Donc là, nous voyons encore que Jésus a été annoncé, Dieu est venu sur la terre, Dieu s'est révélé par Jésus. Alors, il serait intéressant cet après-midi, enfin en tout cas après le culte, hein, pour rester concentré sur le culte, mais à la fin de la journée, il serait bon de se poser la question, mais qui dites-vous que je suis ? Dit Jésus. Qui est Jésus dans votre vie ? Qu'est-ce qu'il représente dans notre vie de chrétien ? Quel est l'attribut qui vous a touché ? Celui qui vous gêne ? Celui que vous aimeriez voir ? Qui est Jésus dans ma vie ? Un bon papa ? Un bon avocat ? Un bon médecin ? Un bon sauveur ? Un pote ? Un frère ? Voilà, je vous laisse, je vous ai donné livré quelques indications, mais je vous laisse le soin de penser à ça. Imaginez que Jésus vous pose cette question. Dis-moi, Justin, qui dis-tu que je suis ? Enfin, c'est pas moi qui parle, hein. C'est Jésus qui te parle. Hein. Je te laisse le soin d'y réfléchir, mais je vous laisse le soin d'y réfléchir à cela, hein, à tous et à toutes. Et puis, nous verrons qui dit-on que Jésus est pour ceux de l'extérieur, ceux qui n'ont pas cru ? Que représente Jésus pour eux ? Nous verrons ça lors d'une prochaine rencontre. Que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il soit béni dans nos vies, dans nos cœurs. Amen.